Hier, aujourd'hui et probablement demain, ont lieu de par le monde d'innombrables comparutions devant un tribunal, suite à quoi, en principe, un jugement ou une sentence est prononcé. Il n'est certes jamais agréable d'être traduit en justice, mais c'est de la gnognotte comparé au tribunal présidé par celui à qui nous devons tous rendre des comptes. Dans les Écritures, il est question de plusieurs jugements. Le moins douloureux est le tribunal de Jésus-Christ devant lequel tous ceux qui sont sauvés doivent se présenter. C'est à ce moment-là que les croyants qui ont été fidèles au Seigneur sont récompensés pour leur dévouement. Tous ceux qui iront à ce rendez-vous incontournable sont bien heureux car ils ont part à la première résurrection. Il existe un autre jugement incontournable lui aussi, qui est réservé à ceux qui ne bénéficient pas de la grâce de Dieu. Connu sous le nom de jugement dernier, cette comparution est toujours de très mauvais augure car automatiquement suivie de la sentence de la seconde mort. Ce rendez-vous est aussi la dernière fois que Dieu se comportera en juge. Pour pouvoir se présenter en personne à la barre des accusés, le condamné ressuscite et la preuve de sa culpabilité est présentée. Mais aucun jury n'est présent et aucune délibération n'est prévue. La défense n'est pas assurée car il n'y a pas d'avocat et le verdict est sans appel. Tous les accusés seront déclarés coupables et punis pour l'éternité sans jamais aucune possibilité de remise en liberté. L'apôtre Jean, qui décrit ce qu'il voit, utilise un langage simple mais rendu brutal par l'absence de détails. Il faut dire que la scène est tellement terrifiante qu'il n'y a pas besoin d'y ajouter des expressions frappantes. Dans un sens, la condamnation des hommes est la faute à Satan, le père du mensonge. En effet, dès le jardin d'Éden, il a trompé Ève, qui hésitait à manger le fruit défendu, en lui disant « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas !» Le diable a également réussi à convaincre des multitudes qu'il n'y aura pas de jugement et donc qu'on peut vivre comme bon nous semble. Il se sert des religions et depuis un siècle et demi de la théorie de l'évolution pour conduire d'innombrables gens à la perdition. En effet, si l'homme descend d'une soupe primaire selon des processus naturels, il n'y a plus de créateur à qui on doit rendre des comptes. Et à la mort, tout est fini. Les fausses religions aussi sont perverses, comme les divinités sont affligées des mêmes tares que les hommes, elles n'exigent pas de conduite morale de la part de leurs adeptes, et de toute façon, si elles se fâchent, on peut toujours les apaiser par des cérémonies. Mais en dépit des spéculations insensées des hommes, il y a bel et bien un Dieu créateur, et il est aussi le juge suprême de l'univers. Comme sa nature est d'être juste, toutes ces décisions le sont également, ce qui paraîtra au jugement dernier quand nul ne contestera sa sentence. Ceux qui n'acceptent pas la grâce en Jésus-Christ ici-bas seront obligatoirement confrontés à sa justice dans l'au-delà. Jésus a d'ailleurs reproché à ses contemporains de ne pas vouloir venir à lui pour recevoir la vie et de ne pas croire en lui. Je continue maintenant à lire dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Ensuite, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis. Verset 11. Ici encore, l'expression grecque traduite par ensuite nous ouvre une nouvelle fenêtre sur la vision de Jean. À partir d'ici et jusqu'à la fin du chapitre, l'apôtre nous décrit en termes très sobres mais percutants le jugement dernier qui aura lieu à la fin du règne de 1000 ans de Jésus-Christ, ce qui correspond aussi à la fin de l'histoire humaine et au début de l'éternité avec une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Le trône que voit l'apôtre Jean est grand, peut-être par sa taille, mais surtout par sa signification, car la majesté et l'autorité divine lui sont attachées. Le prophète Daniel a lui aussi eu la même vision, car il écrit « Je regardais encore pendant qu'on installait des trônes. » Un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige, et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place, et l'on ouvrit des livres. Cette scène correspond à la seconde résurrection, celle en vue du jugement que Jésus a également mentionné. Après avoir prononcé une condamnation contre les non-juifs, l'apôtre Paul a dit à ses contemporains « Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. » Ce jour est le jugement du grand trône blanc, un trône qui est mentionné précédemment plus de 30 fois dans l'Apocalypse. Jean ne précise pas qui est assis sur ce trône, mais il s'agit de Jésus-Christ, car selon plusieurs passages des Écritures, c'est lui qui jugera le monde. Il a dit « Ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils. » L'apôtre Pierre a dit au centurion romain Corneille et à tous les siens « Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. » Au philosophe d'Athènes, l'apôtre Paul a déclaré « Dieu a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. » C'est Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts. Et Paul dit encore, « Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Parfois, on entend quelqu'un se moquer de Jésus en chanson, en jurons, ou même prendre son nom en vain, comme dans l'expression « d'où Jésus » par exemple. Eh bien, si on croit vraiment à la scène du grand trône blanc décrite par Jean, on ne sera pas simplement mal à l'aise, mais saisi d'horreur. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je ne voudrais pas être dans les souliers de ceux qui ont participé d'une quelconque manière à la comédie musicale Jésus-Christ Superstar, ou aux romans et films qui inventent ce qu'a été la vie de Jésus, comme dans le Da Vinci Code, par exemple. On peut rétorquer que ces gens ne savent pas qu'ils font le mal. Mais j'en doute fort, car c'est de l'ignorance voulue, et puis même, ce ne sera pas une excuse recevable devant le Seigneur de gloire. Il y a bien des façons d'écarter Dieu et Jésus-Christ de sa route, et l'une que j'ai souvent entendue consiste à dire « on verra bien quand on sera de l'autre côté » ou encore « je suis meilleur que la plupart des gens ». D'autres sont aussi arrogants que des coqs et affirment « s'il y a un Dieu et qu'il est juste, il sera obligé de tenir compte de mes bonnes actions. » Assez curieusement, c'est également de cette manière que Jean-Jacques Rousseau compte se justifier devant Dieu. Dans le préambule des Confessions, il déclare « Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra. Je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement « voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. Que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il ose, je fus meilleur que cet homme-là. » Nous aimons nous comparer à d'autres et dire, je suis quand même mieux que le voisin d'à côté. Bien sûr, mais encore me faudrait-il bien connaître le voisin d'à côté. Chacun sait des choses qui le concernent qu'il n'oserait pas dire à son meilleur ami. C'est votre cas, n'est-ce pas? Vous savez ce que vous cachez, ce qui vous fait honte et que pour rien au monde vous voudriez qu'on découvre. Mais pour ceux qui se trouvent devant le grand trône blanc et qui demandent à être jugés en fonction de leurs actions, les moindres détails de leur vie vont être exposés au grand jour. Salomon écrit « Dieu jugera toute œuvre » même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. Depuis notre plus tendre enfance, chaque action, parole et pensée est enregistrée quelque part dans notre mémoire. En ce monde, nous n'avons qu'un accès limité à nos souvenirs, mais au jugement dernier, ceux qui seront mis en examen visionneront toute leur vie du début à la fin. Mais ils ne vont pas aimer ce qu'ils vont voir et entendre. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, ce n'est pas une expérience qui me tente le moins du monde, parce que je sais que mes bonnes actions laissent à désirer, et puis surtout, elles ne peuvent en aucun cas gommer les mauvaises. Il existe pourtant bien un moyen d'effacer ces fautes. L'apôtre Paul écrit « en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés, nous avons reçu le pardon de nos fautes. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Pour ne pas se retrouver devant le grand trône blanc, il faut accepter d'être purifié par le sang de Jésus et ainsi recevoir le pardon de ses péchés. Cet acte permet aux repentants d'ôter ses guenilles et d'être revêtus de la justice de Jésus-Christ, la robe de lin pur éclatant, indispensable pour entrer au ciel. Je continue maintenant le texte. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de la présence du grand trône blanc. Ils disparurent sans laisser de traces. Verset 11. Il s'agit de l'action divine inverse de celle qui a créé l'univers. Par sa parole, Dieu a fait sortir la terre et le ciel du néant. Par cette même parole, il les y renvoie. Comme le présent univers, celui que nous connaissons, a été souillé par le péché, il faut qu'il disparaisse complètement car aucune trace d'impureté ne peut entrer dans l'état éternel parfait. L'apôtre Pierre écrit « Le jour du Seigneur, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. » La terre est notre planète et le ciel fait référence à l'univers physique visible de l'espace interstellaire et intergalactique. Le mot pour astre signifie littéralement ceux qui forment une rangée. Ici, il désigne les astres, bien sûr, c'est-à-dire l'infiniment grand, mais aussi les atomes constitutifs de la matière, c'est-à-dire l'infiniment petit. À la fin du jour du Seigneur, qui s'étale du début de la tribulation à la clôture du millénium, l'univers se désagrégera et disparaîtra dans un fracas terrifiant. En grec, le mot pour fracas est une onomatopée qui décrit une détonation assourdissante, ainsi que les crépitements et les sifflements des objets qui explosent. De toute façon, notre univers n'est pas éternel. Il ressemble à une immense horloge dont les ressorts se détendent. C'est ce qu'on appelle l'entropie, un mot qui veut dire retour en arrière et qui définit un désordre croissant. Au fil du temps, notre univers se dégrade et un jour il s'arrêtera de fonctionner, mais avant que cela n'arrive, Dieu le détruira. Dieu sait détruire, mais il est avant tout un constructeur. Si l'apôtre Pierre nous fait part de la destruction de l'univers, il conclut en disant « Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Je continue le chapitre 20. « Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. » Verset 12. Étant donné qu'il n'y a plus ni terre ni ciel, tous les êtres vivants qui ont jamais existé sont morts. Ceux qui se trouvent à la barre des accusés forment la fratrie des damnés, réunis pour la première et dernière fois. Ce sont des hommes et des femmes de tous les temps et de tous les groupes ethniques, les grands de ce monde, ceux qui ont fait l'histoire seront là, ainsi que les grands criminels et les petits vicieux, les mesquins, les commères et les moins que rien qui n'ont fait que passer. Ils ont tous été ressuscités pour être condamnés, a dit Jésus, en tant qu'injustes, dit l'apôtre Paul, pour la honte et l'horreur éternelle, écrit le prophète Daniel. Tout ça est horrible. Cependant, la bonne nouvelle est que tous les êtres humains qui ont fait confiance à l'Éternel ou en Jésus sont ressuscités, il y a au moins 1000 ans déjà, et ont reçu leur récompense. Depuis, ils règnent avec le Seigneur et par conséquent, ils ne sont pas concernés par le jugement du grand trône blanc. Jésus a promis à ses fidèles « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède, dès à présent, la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. » Les apôtres Paul et Jean affirment la même vérité quand ils écrivent respectivement Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Je continue le texte de l'Apocalypse. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. Verset 12. Comme je l'ai dit, la scène rappelle la vision de Daniel qui écrit « La cour de justice prit place et l'on ouvrit des livres ». Les criminels, grands ou petits, qui n'ont pas été pardonnés pour leurs méfaits sont tous là. Judas, Hitler, Staline et les millions d'autres. Certains ont déjà purgé une peine. Cependant, beaucoup ont réussi à passer à travers les mailles du filet de la justice humaine. Mais devant le grand trône blanc, il n'y a pas d'échappatoire possible et tous savent qu'ils vont devoir rendre compte de leurs crimes. Quant aux multitudes de bien-pensants qui désirent être jugés selon leurs actions, le moment est venu. Il est intéressant de remarquer que dans l'au-delà, les jugements se font bel et bien en fonction des œuvres. C'est sur cette base que les croyants reçoivent ou pas une récompense et que les autres êtres humains sont condamnés. Quand Jésus a prophétisé son retour pour régner, il a dit « Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. » Les œuvres des croyants ont été passées au peigne fin au moment de l'enlèvement de l'Église. Pour les fidèles de l'Ancien Testament et de la Tribulation, l'examen a eu lieu juste avant le début du règne de 1000 ans. Tous les autres êtres humains sont devant le grand trône blanc et c'est là qu'ils reçoivent une sentence qu'ils devront purger éternellement et qui est fonction du mal qu'ils ont fait sur terre. Concernant la conduite des spécialistes de la loi, Jésus a dit à ses disciples « Ils aiment à parader en costume de cérémonie, être salués sur les places publiques, avoir les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les banquets, mais ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Leur condamnation n'en sera que plus sévère. » Et dans une parabole, Jésus a dit « Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. L'enfer sera un lieu de tourment pour tous les damnés, mais à des degrés divers. » Jean a vu qu'on a ouvert des livres contenant les actions des condamnés, mais aussi un autre livre, le livre de vie. Il en est question plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse, et il remplit le même rôle que le registre des citoyens que tenaient les villes de l'Antiquité. Ce livre est le registre des élus de Dieu et contient donc les noms de tous les citoyens du ciel. Aucun de ceux qui se tiennent devant le grand trône blanc ne se trouve dans le livre de vie. Pour cette raison, ces gens sont jugés selon leurs œuvres et automatiquement condamnés parce que, comme le dit l'apôtre Paul, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. L'homme est déclaré juste par la foi. Je continue le texte. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient, et tous furent jugés chacun conformément à ses actes. Verset 13. Au travers des siècles, la mer a englouti des centaines de millions de personnes. La mort représente ici la terre ferme, les cimetières et les charniers. Dans l'Ancien Testament, le mot « Sheol », traduit par « séjour des morts », apparaît 67 fois. Il désigne le lieu où vont les morts, qu'ils soient justes ou impies. Dans le Nouveau Testament, « séjour des morts » revient 10 fois et désigne toujours un lieu de châtiment, une sorte de pénitencier où vont les âmes des êtres humains qui meurent sans avoir reçu la vie éternelle. Ici, autant la mer que la mort sont dépeints comme des monstres voraces qui ont avalé des corps humains mais sont forcés de les rendre lors de la deuxième résurrection. Une fois ressuscités, les corps sont réunis à leurs âmes qui eux se trouvaient dans le séjour des morts. Ces êtres humains reconstitués sont alors traduits en justice, condamnés et jetés dans l'étang de feu pour l'éternité.